Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot Nicolas Villas.
Viva les amis, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à minuit, after de 2h avec vous, on vous attend au 32-16, c'est chaud à Saint-Étienne, ça se tend en coulisses, Saint-Étienne qui est 17ème de Ligue 1, la faute à qui selon vous, on attend vos réponses, on aura celle notamment d'Edouard G au 32-16. L'OL, l'OM comme beaucoup de clubs pros se mettent leurs salariés au chômage partiel, c'est quoi exactement, qui paye combien, explication avec Pierre Rondeau. Et puis on aura des nouvelles de Neymar, on a Pelé qui le compare à Messi et Cristiano, Pelé qui a quelques petites piques à l'encontre de Neymar également, du joueur du Paris Saint-Germain. Et pour vous, qui est le meilleur Brésilien de l'histoire? Tiens, parce que Pelé, il en parle de ça aussi, il se met numéro 1 et il va donner son numéro 2. On attend vos propositions au 32-16 et petite page chinée également. Quel est votre film foot préféré? Hashtag RMC Live 32-16 pour y répondre, bien évidemment. After un peu particulier, en cette période très particulière, justement, avec nous ce soir. Ils sont là, ils sont avec nous, à distance, chez eux, confortablement installés, du moins on l'espère. Lionel Charbonnier, bonsoir Lionel.
Salut Nico, salut à tous.
Il est où Lionel là?
Ben, je suis chez moi, je suis dans mon...
Dans une écurie.
Écoute, non, ben, juste à côté. Ouais. Juste à côté, je suis dans mon bureau et voilà, je vais t'envoyer une petite photo tout à l'heure.
Ah oh, oui, habillé, j'espère. Willy oui. Sagnol également est avec nous, bonsoir Willy.
Salut Nico, salut à tous.
Non.
Salut Willy.
Il est où Willy?
Oh, moi je suis dans mon bureau.
Il a un bureau le mec, carrément.
Ah bah écoute, hein, il faut ce qu'il faut. Hein. Non, et puis, c'est bien d'avoir une pièce à soi, tu sais, où, en ce moment où les enfants ne peuvent pas venir.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Jérôme Roten aussi est avec nous. Bonsoir Jérôme.
Salut Nico, salut à tous.
Il est où le pied gauche?
Salut poulet. Bah, salut les gars. Bah, comme toute cette semaine. Là,
dans le formol.
Non, je suis dans le salon de mes gouvernantes.
D'accord, bon c'est pas mal.
Non, je plaisante, bien sûr.
C'était pas mal, j'allais dire, tu vois.
C'était pas mal.
Tiens, vous avez fait quoi de votre journée? Ouais. Parce que bon, on est confiné à la maison, mais ou au boulot, mais.
Fais du sport.
Jérôme?
J'ai fait du sport, ouais. J'ai fait un peu de tapis, un peu de vélo, du gainage, voilà. Et puis sinon, je m'occupe de mon fils. Hein. On fait avec ce qu'on peut.
Ça aussi, c'est du boulot. Willy, t'as fait quoi aujourd'hui?
Eh ben écoute, un peu comme Jérôme, sauf le sport. les devoirs d'école. Et puis j'ai fait mes 5 minutes dehors journalier en promenant mon chien.
Lionel, il a promené son cheval?
Entre autres, ouais, parce que j'ai la chance quand même de pouvoir sortir mes chevaux. Nous, on est confinés, mais tu sais, ça fait 30 ans que je suis confiné à Auxerre. Donc, personnellement, ouais, ça ne me change
nature,
pas trop.
T'es bien, toi.
Non, mais entre guillemets, non, moi, j'ai regardé. J'ai regardé Jérôme faire son sport par vidéo interposée. J'ai compté les pompes.
Tiens, sachez que face à l'épidémie du Covid-19, RMC s'associe à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour soutenir les personnels soignants. Nous lançons un appel aux dons ensemble, tous avec les acteurs du sport. Soutenons la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour donner et aider les personnels soignants. Rendez-vous sur rmc.fr ou envoyez don DON par SMS au 92-111 pour donner 5 euros. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux de RMC et sur le hashtag Solidarité Hôpitaux, Hôpitaux au pluriel. On compte sur vous. Alors à Saint-Etienne, on va commencer par ça. Saint-Etienne, 17e et premier non relégable avant la coupure. Ça se tend en coulisses. Alors l'équipe qui annonce aujourd'hui que Claude Puel, qui est sous contrat jusqu'en 2022, a mis un ultimatum à sa direction. Alors il ne sera pas la saison prochaine si Roland Romeyer reste. Alors info qui a été démentie dans l'après-midi par le club. Je cite, l'ASC déplore l'effet erroné et la polémique inutile en cette période de crise sanitaire. Alors nous on va poser la question un peu plus globalement, supporters des Verts, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de la situation actuelle de l'AS Saint-Etienne et qui est le responsable selon vous? Edouard G est avec nous pour essayer de nous éclairer un petit peu dans cette situation très floue du côté des Verts. Salut Doudou.
Salut Nico.
Comment il va le Doudou?
Eh ben écoute, il va bien, il a vu sur la Saône, tout va bien à Lyon. Bonjour messieurs, salut Jérôme.
Salut Edouard.
Salut Doudou.
Gabriel, salut Pierre.
Alors Doudou, qu'est-ce qui se passe?
Salut Willy, pardon, excuse-moi, je t'ai oublié.
Ouais, surtout Willy, on parle.
Attends,
Verts,
le mec, il a la vue sur la Saône et il parle de Stéphane. Eh ben ouais. Non mais sérieux.
Ouais, c'est pour ça que j'avais du mal, tu vois, intellectuellement parlant, à faire un truc en fait.
Alors Doudou, qu'est-ce qui se passe à Saint-Étienne? Il y a eu cette information qui a été sortie par nos confrères de l'équipe aujourd'hui, démentie par les Verts. Alors assez timidement, faut dire la situation est tellement complexe et bizarre en ce moment. Ils n'ont pas trop voulu rentrer dans la polémique non plus à Saint-Etienne. Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Ah, en fait, vous savez, d'une manière générale, il faut avoir des données de base. En fait, c'est pas facile de travailler avec Roland Romeyer, quelqu'un qui a vraiment l'AS Saint-Etienne dans le cœur, qui a sauvé en quelques heures, il y a quelques années, avec son entreprise SACMA Agencement, hein. En quelques heures, il a mis quelques euros, quelques milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros à une époque pour sauver le club de la faillite. Donc ça, c'est un préalable indispensable pour savoir l'attachement déjà de Roland Romeyer au club. Alors, c'est vrai que pour moi qui aime bien voir les choses sur le terrain, c'est difficile d'avoir des infos parce que on peut pas être à l'étroit forcément. Donc voir si par exemple Roland Romeyer va à terme quitter son bureau à l'entrée du centre d'entraînement, c'est un petit peu difficile à savoir. Et c'est difficile aussi à avoir un peu plus d'informations parce que tout le monde est écartelé hein, au niveau du staff, géographiquement parlant, puisque les Stéphanois sont en arrêt d'entraînement jusqu'au 23. Hein. Ils avaient eux pris la décision jusqu'au 23. Juridiquement, pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler pour la suite, mais en tout cas, jusqu'à lundi. Alors ensuite, bah, Claude Puel, bah, on le connaît, tout le monde le connaît, et puis moi, je l'ai connu un petit peu ici à Lyon. Et puis, ça a été précisé hein, lors de sa conférence de presse d'introduction le 4 octobre. Il a des principes, il veut repartir avec un nouvel état d'esprit, des jeunes qu'il veut manager. Alors, sur le moment, ça paraît un petit peu dur, mais à long terme, et à Lyon, par exemple, on a beaucoup critiqué sa dernière année, notamment, mais il y a quand même des bonnes bases qui sont restées. C'est quelqu'un qui aime travailler sur la durée. Par exemple, le groupe Pro 2 qui est toujours encore en vie à Lyon. Hein. Ce sont tous les jeunes qui sont encore un petit peu trop forts pour l'équipe réserve, mais pas encore assez pour l'équipe 1. Donc il y a un groupe un petit peu intermédiaire. C'est un petit peu comme ça qu'existe encore un peu la Nationale 2 à Lyon. Il a fait quand même beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui vient pour construire.
Mais du coup, tu crois au coup de pression là qui est annoncé aujourd'hui ou pas ?
Franchement, j'y crois pas. Alors peut-être comme ça dans des discussions un petit peu houleuses, mais lui le dire franchement c'est moi ou l'autre, je le vois pas ouais. Comme ça parce que
ça
pendant 3 ans
quand même.
Ça me paraît étonnant. À Lyon il aurait pu le faire de nombreuses fois hein, de 2008 à 2011. C'est vraiment pas quelqu'un qui est c'est pas son genre d'abdiquer, c'est la phrase ouais. qui nous dit souvent. Et puis au niveau du staff, pour avoir discuté il y a quelques temps, mais c'était à fin février en plus, donc on peut dire qu'en quelques jours ça peut évoluer. On est assez tranquille au niveau du staff, au niveau du staff nouveau autour de Jackie Bonnevet, de Claude Puel notamment, c'est qu'on a les clés du camion quelque part parce que les présidents veulent que ça change, les supporters aussi veulent que ça change et ils veulent qu'un certain nombre de choses changent, que les cadres changent aussi de leurs habitudes. Voilà, tout ça se met en place pour la longue durée.
Quand il a signé Claude, il savait où est-ce qu'il mettait les pieds. Il savait qu'il s'engageait avec une direction à deux, avec un binôme, qu'il y avait d'un côté Romeyer, t'as aussi Cayazo qui est du côté de Paris, qui doit être peut-être confiné lui du côté de Paris. Quand ça veut dire que t'acceptes la situation, donc je comprendrais pas que Claude Puel dise aujourd'hui c'est où Romeyer. C'est-à-dire qu'en plus c'est ou l'un ou l'autre.
Jérôme, vas-y.
Oui, mais on peut comprendre. Alors oui, je suis d'accord qu'il connaissait la situation à Saint-Etienne quand il est arrivé.
Non, il a découvert des choses quand même.
Oui, sauf que depuis
notamment
le temps,
au niveau de certains joueurs apparemment.
Depuis le temps, il y a eu des grosses déceptions sportives, des grosses déceptions, je pense aussi administratives, et que alors je sais pas. Hein, apparemment, ça a été démenti. Peut-être que ça n'était pas aussi cash que ça, comme ça l'a été annoncé aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que il est déçu de cette gestion, des erreurs, et que peut-être que oui, en effet, il a envie que ça change, qu'il y ait un homme fort plutôt que deux.
Ça fait peur, Jérôme. Ça fait peur parce que quand tu sais qu'il y en a deux et que ça veut dire que peut-être qu'il y en a un qui pourrait travailler en. Tu vois ce que je veux dire ?
Tiens, Willy,
lui monter la tête contre le premier qui serait.
Ouais, mais Lionel, pour moi.
Je sais pas.
Moi,
ça me paraît bizarre.
Les deux, de toute façon, ont montré leurs limites et je pense qu'ils sont. C'est plus les hommes de la situation.
Là, je suis d'accord avec toi.
Alors, on va écouter Willy, toi qui connais bien la maison, même si elle a pas mal changé depuis le temps où tu as été formé, qu'est-ce que tu en penses de cette situation, toi ?
Bah, moi, je varie pas d'un iota par rapport à ce que j'ai déjà dit, par rapport à ce que je pense que ça soit du microcosme stéphanois, mais également du football en France. Les problèmes de Saint-Etienne, alors c'est vrai qu'il y a d'abord, c'est des joueurs. Il y a des joueurs en fin de course, trop de joueurs en fin de course, et qui n'ont pas encore conscience qu'ils sont en fin de course. Et puis surtout, pour moi, il y a un problème de structuration. On est, il faut quand même regarder. On donne les clés, entre guillemets, du camion, comme on dit, à un entraîneur. Mais tous les clubs qui ont voulu faire ça l'ont payé. Et Saint-Etienne l'a déjà payé plusieurs fois. Ils s'en sont rendus compte quand ils ont donné les clés du camion à Galtier quand il est parti. C'était le désert de Gobi quand il y a le Oscar Garcia qui est arrivé.
Ouais, mais c'était bien quand il était en place, Willy.
Non, mais attention. J'ai pas dit que ça ne pouvait pas être bien, mais il y avait un autre effectif. Il y avait aussi Dominique Rocheteau qui était au club à ce moment-là, si vous vous en rappelez. Mmh. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec deux présidents, dont un qui c'est le président du conseil de surveillance, qui est Cayazo, un autre qui est le président du comité exécutif, donc qui doit gérer le club au quotidien. La problématique, c'est que à partir du moment où vous avez nommé un entraîneur manager général et qu'il y a un directeur général aussi qui peut siéger aussi au conseil, il est où le gars? Qui est le garant du projet sportif là-dedans? Pour moi, tous les clubs qui fonctionnent, et alors on me traite toujours de toile allemande de base, oui, je sais, mais en Allemagne, il y a toujours une personne qui est le manager général, qui n'est pas entraîneur, qui est un ancien joueur, qui est un ancien sportif, qui est un ancien, mais quelqu'un qui a les compétences pour garantir le projet à long terme. Un entraîneur, il dépense déjà tellement d'énergie au quotidien avec ses joueurs pour, on sait que les générations d'aujourd'hui sont encore plus difficiles à manager. Il passe son énergie à prévoir les séances d'entraînement, à faire les débriefs, à faire les visionnages vidéo, à faire les débriefs de match, à faire les causeries d'avant-match. Il a déjà tellement de travail, l'entraîneur ne peut pas être garant du projet sportif à long terme.
Oui,
vous êtes obligé.
C'est ce que faisait Dominique Rocheteau,
Dominique Rocheteau était directeur sportif ou
conseiller
du président, j'en sais rien, mais c'était le, comme a été Lacombe pendant longtemps à Lyon, ça a été un peu le garant, alors je connaissais pas trop ses responsabilités, mais il manque aujourd'hui une personne entre le président et l'entraîneur. Alors c'est peut-être trop tard parce qu'ils l'ont nommé manager général, et pourtant Claude c'est quelqu'un que j'adore et que je serai toujours son premier défenseur, mais dans la structuration de l'AS Saint-Etienne aujourd'hui, c'est pas comme Lyon à l'époque. À l'époque à Lyon, vous pouviez le nommer manager général parce que les structures du club étaient là, la formation était là, il y avait déjà des super jeunes, il y avait Lacombe, ouais. Il y avait des mecs qui avaient déjà gagné autour de lui. Là, il arrive dans un club où un directeur du recrutement qui est plus là, Ventier, Rocheteau, l'ancien directeur sportif qui est plus là, il y a plus personne dans ce club pour garantir le sportif à long terme.
C'est ce qu'il veut mettre en place. Il y a des bons jeunes.
Il ne peut pas le mettre en place.
Qu'est-ce qui empêche de prendre un bon directeur sportif aujourd'hui, hier, on a eu le président de Rennes.
Eh ben c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, Jérôme. Dis juste que Claude n'a pas pensé qu'il a le temps et l'énergie pour structurer tout un club. Je pense que c'est une erreur.
Alors, Edouard, toi qui connais bien la réalité des deux clubs, à Lyon et à Saint-Etienne, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de développer Willy, justement? C'est vrai qu'on a l'impression que c'est difficile, finalement, et qu'à Saint-Etienne, l'après-Galtier est très compliqué, ça, force est de le constater. Hein.
Bah, ou l'après-Gasset, plutôt, parce que c'est vrai que les Stéphanois sont, les deux dernières années, les 18 derniers mois ont quand même fait des bonnes saisons. Il y a eu le sauvetage en 2018, et puis l'année dernière, la Coupe d'Europe. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que David Ventier n'est plus là. Il y a une zone de non-droit. On est dans une période, en plus, avec la crise actuelle où tout le monde est écartelé. On veut essayer de faire confiance aux jeunes. Mais finalement, est-ce que du côté du staff, est-ce qu'on se dit, certes, Lionel l'a rappelé, les Stéphanois ont gagné la Coupe Gambardella l'année dernière, mais William Saliba, l'année prochaine, il est déjà plus là. Donc, il faut déjà construire pour l'année prochaine. Qui peut y avoir comme vraiment très bons jeunes qui peuvent s'imposer à terme? Wesley Fofana peut-être. Les autres, c'est peut-être un petit peu moins sûr.
Ils n'ont pas le centre de formation, l'Olympique Lyonnais, quand Claude est arrivé à Lyon. Hein.
Oui. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi cette donnée de se dire, voilà, les jeunes ont gagné la Coupe Gambardella. Alors, donc, l'année dernière, c'était 2019. C'est bon, en 2020, ils vont être dans l'équipe 1. Ça se passe pas comme ça, en fait. C'est beaucoup plus dur. Et Claude Puel a fait signer aussi un certain nombre de jeunes. Il y a eu beaucoup de signatures de contrats de professionnels pour des jeunes pour construire dans l'avenir. Et puis là, il y a une vraie page à changer, quoi, en fait. Et peut-être l'erreur, les Verts payent peut-être un étourdissement peut-être au mois de mai dernier quand les Stéphanois ont terminé européens. Ils se disent voilà, bah, Gasset s'en va, on va faire jurisprudence Galtier. Souvenez-vous, ça a super bien fonctionné une fois Alain Perrin quitté. Je vous parle de Saint-Etienne. Hein, c'est Christophe Galtier qui prend la suite. Sauf que c'est pas les mêmes conditions et c'est pas forcément le même bonhomme non plus.
Non, mais ça fait partie des erreurs. Ça
fait partie
des erreurs dramatiques.
On s'est aveuglé. Alors c'est facile à dire après.
Après. Il y a certains qui connaissaient la situation et qui connaissaient surtout l'homme en question, Ghislain Printemps. Après, c'est pas lui faire.
Exactement, c'est pas par rapport à lui. Bien sûr, ouais, c'est ça.
Mais c'est sûr que c'était incohérent de continuer d'avoir cette continuité avec Ghislain Printemps qui était l'adjoint de Gasset. Et quand tu connais l'aura de Gasset, du moins comment il a eu sa façon d'animer ses séances, et puis la qualité aussi du technicien, c'est sûr que là c'était un pari déjà perdu d'avance avec Ghislain Printemps.
Je pense qu'on s'est resté aveuglé en fait au mois de mai dernier sur la Coupe d'Europe. On a failli du côté de Saint-Etienne finir alors déjà devant Lyon, mais surtout en Ligue des Champions. Donc ça a un peu aveuglé tout le monde. On s'est dit on va pouvoir repartir, et puis finalement les quatre se sont peut-être un petit peu endormis. Et puis il y en a certains qui se sont laissés aller. Une phrase par exemple du vestiaire, qu'un cadre qui dit à Wahbi Khazri, oula, mais qu'est-ce qui se passe là au niveau de ton ventre, attention, au niveau de tu peux te faire prendre par la VAR, tout simplement parce qu'il y avait un petit peu trop de, voyez,
il avait pas tort.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de choses qui des cadres qui se sont laissés aller, et au final tout est difficile à reconstruire.
Supporter des Verts, on vous attend bien entendu au 32-16. C'est ce qu'a fait Hervé qui nous a appelé. Salut Hervé.
Salut Nico, salut Jérôme, salut Lionel, salut Hervé.
Salut Hervé. Fidèle de l'after, hein, notre Hervé.
N'est-ce pas?
Comment tu vas?
Ben ça va, écoute, confiné comme beaucoup de monde, voilà, avec la femme, avec le bébé de 18 mois, donc...
Ah, toi aussi, t'as le bébé confiné à la maison, pas facile.
Et ben, celui-là, ça va, il est mignon comme tout.
Ah ouais?
Il est mignon comme tout, donc ça va.
Alors, qu'est-ce que tu penses de cette situation des Verts? C'est la faute à qui, toi, selon toi, ce qui se passe à Saint-Etienne en ce moment?
Ben, la faute à qui? Quand on voit, j'ai envie de dire, le chef-d'œuvre qu'ils nous proposent cette année, ça peut être qu'une œuvre collective, déjà. Il n'y a pas une personne qui est fautive de cette situation-là. Il y a plusieurs choses, vous l'avez déjà de toute façon très bien résumé. Les joueurs en fin de carrière, mais qui savent pas trop qu'ils sont en fin de carrière. C'est Jean-Louis Gasset qui les avait fait venir avec son carnet d'adresse bien fourni et qui a fait merveille, puisque les 6 premiers mois, ils grattent 10 places, ils passent de la 16e à la 6e. L'année d'après, on finit 4e, donc la saison passée. Donc merci à Jean-Louis Gasset. Mais derrière, c'est lui qui conditionne un petit peu l'effectif tel qu'il est aujourd'hui. C'est lui qui apparemment souffle à l'oreille des dirigeants que Ghislain Printemps peut être l'homme de la situation. Donc j'ai envie de dire une petite part quand même à Jean-Louis Gasset qui a, après il a ses raisons, il n'y a pas de souci pour ça, mais qui a un peu quitté le navire comme ça.
Alors c'est vrai, juste fais une petite parenthèse, c'est vrai que on l'a vu notamment sur le hashtag RMC Live, il y a pas mal de gens aussi qui ont quelques reproches à faire à Jean-Louis Gasset justement.
Attends, tu peux pas, Nico, on peut pas remettre... D'accord, Jean-Louis Gasset, il donne...
Non mais c'est collectif, comme dit Hervé, mais c'est vrai
qu'il donne... Il donne son point de vue. Après, bien sûr que quand il s'en va pour ses raisons qui lui sont propres, qu'on connaît les problèmes qu'il a eu d'ordre privé, on peut comprendre. Et puis l'âge aussi qu'il a, il met en avant son adjoint parce que Ghislain Printemps a aussi fait du très bon boulot avec lui. Mais après, t'as des dirigeants, le président, les deux présidents, ils sont deux plus ceux qui étaient proches des présidents là. C'est à eux de prendre la responsabilité et t'es pas obligé de faire confiance à Jean-Louis Gasset ou à certains. Parce que on parle de Jean-Louis Gasset, il y a aussi les joueurs qui sont montés au créneau.
C'est pour ça que je disais que c'était collectif. D'ailleurs, dans tous les joueurs qui sont montés au créneau, il y avait une question en fin de saison dernière. Est-ce que si Jean-Louis Gasset part, est-ce que vous repartirez de zéro? Cette phrase a été passée inaperçue, mais Loïc Perrin avait répondu, si Jean-Louis Gasset s'en va, on repart pas de zéro, on repartira d'encore plus bas. Cette phrase, moi, ça m'avait fait un petit peu froid dans le dos. Et la preuve, il avait tout pigé, Loïc Perrin, parce qu'il y en a un dans l'effectif actuel qui connaît le club, ben c'est bien lui. C'est pour ça, quand je dis Jean-Louis Gasset, il n'y a pas que lui. Après, il y a quand même les joueurs, parce que même s'ils n'ont pas été préparés suffisamment, même s'ils n'ont pas été mis dans les meilleures dispositions, parce que Ghislain Printemps était trop court sur patte, ok. Mais on m'enlèvera pas quand même de l'idée, un mec comme Yann Mvila, il n'a pas perdu son sens de la passe en 3 mois.
Mais il a perdu son hygiène de vie, peut-être.
Ah, mais voilà, on est d'accord, Edouard, là-dessus. Mais par contre, putain, les gars, fait, de pas arriver à faire des passes. Edouard, tu dois voir les matchs aussi comme moi. Moi, j'en ai pas loupé un, que ce soit au stade ou à la télé. Donc, je peux vous dire, cette année, la bouillie de foot, merci. Mais honnêtement, les matchs de merde, excusez-moi l'expression, qui nous ont livrés, on peut me dire que c'était pas le bon entraîneur, on peut me dire tout ce qu'on voudra. Mais techniquement, les mecs, ils sont pas au niveau.
Non, non, mais après, t'as raison. T'as une conscience professionnelle à avoir. Et là, je suis d'accord avec toi sur le fait que sur le début de saison, après, attention, hein, les mauvais résultats, les échecs en Ligue Europa, le changement d'entraîneur, fait que le joueur, d'un moment, il a beau avoir un très bon niveau et essayer de se remettre en question. Après, c'est un problème de confiance dans le groupe, dans l'équipe. On sent que cette équipe.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on reconnaît pas cette année.
Ouais, mais bon, c'est normal. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. T'as beau avoir des noms et des joueurs qui ont été très bons.
Non, mais t'avais un Yann Mvila, par exemple, qui était sur trois.
Ouais, mais Yann Mvila, on parle.
Non, mais Nico, il était sur trois saisons pleines quand même où il était vraiment bien. Et alors, en plus, c'est vrai que Mvila,
mais attends,
c'est
aussi la difficulté.
C'est un peu le symbole. Il avait dit, moi, je me barre si Gasset se barre. Il est finalement resté. Et on le reconnaît plus. Donc
oui, oui, non, mais déjà en début de saison. On reconnaissait plus, mais ce qui est sûr, après on peut pas non plus stigmatiser que sur un joueur. Mvila est un joueur important,
ça c'est bon, d'accord. C'est ce que je te dis.
Mais, plein d'autres, ouais. Si tu veux, qui sont pas au niveau.
Mais non, mais après il y a les joueurs qui sont plus à leur niveau et qu'on attendait comme l'année dernière un très bon niveau. Et puis il y a aussi les manques dans l'effectif. C'est un problème de niveau aussi. Il y a des joueurs sur le point de vue offensif. Je te parle des attaquants, des avant-centres. Est-ce que t'as un mec aujourd'hui digne de ce nom qui peut permettre à Saint-Etienne de rester en haut du tableau. Ouais, mais c'est pas un avant-centre.
Un attaquant.
En avant-centre, bah ouais. On a personne. Avant-centre pur, on avait Berić. Le problème avec Berić, fais-moi après humblement, hein, je pense que quand t'as un mec comme Berić dans ton équipe, soit tu décides de jouer pour lui. Et donc,
adapte
un petit peu, ou après, voilà. Après, c'est mon avis. Personne ne l'a jamais fait, à part un petit peu Jean-Louis Gasset. Et encore, pas sur les 18 mois qu'il a passé. Hein.
Hervé, tu mets le doigt justement là où il faut le mettre, c'est-à-dire que la difficulté.
Non,
pas le droit.
Il est trop tôt, Hervé. 22h24, pense au petit, 18 mois, Hervé, merde.
Il dort à cette heure-là.
Non, mais c'est pas faux. La difficulté, c'est aussi d'avoir un même effectif géré avec un entraîneur différent. Alors même si derrière Gasset il y a eu Printemps, derrière Tapuel, chaque mec qui va arriver doit faire avec des conceptions différentes, mais par rapport à un effectif qui est le même. Là,
mais c'est
la difficulté.
C'est pour ça, Lionel.
Pour finir,
c'est
pour
ça, Lionel. Non, mais c'est pour ça que ça résume ce que j'ai dit au départ, c'est que vous devez avoir un garant du projet sportif.
Bien
parce
sûr,
que
bien
à
sûr.
Chaque fois que vous avez un entraîneur qui arrive, quand il part à Saint-Etienne, c'est une catastrophe.
Les conceptions individuelles sont différentes à chaque fois.
Mais justement, tu dois avoir un lien qui est fait.
Exactement.
entre les passages de témoins. Un mec qui va expliquer à un entraîneur quand il arrive, écoute, on te prend comme entraîneur, mais je suis désolé, tu vas pas faire tout ce que tu veux. Il y a certaines choses à respecter. On a certaines valeurs, parce que les joueurs, c'est quand même eux qui représentent la valeur d'un club. On a quand même des joueurs, dont un, par exemple, Berić, qui est pour nous peut-être notre meilleur attaquant. Et bah, écoute, Claude, quand tu arrives, il y a Berić. Il faut essayer de mettre en place un jeu où tu vas passer un peu plus sur les côtés pour avoir des centres, parce que Berić, sa force, elle est dans la surface adverse. Mais comme il y a personne dans cette position-là, et bah justement, c'est Claude arrive, il fait ce qu'il veut, ce joueur il me convient pas, bon bah il part, et puis finalement tu te retrouves avec plus rien.
Et la grosse difficulté, c'est que en plus ça n'a pas été en s'améliorant.
On remercie Hervé en tout cas qui nous a appelé au 32-16. Merci
Hervé,
courage Hervé. Prends soin de toi et de la famille.
Courage à tout le monde et puis un gros coucou à tout le personnel soignant qui vous écoute, ils sont nombreux, je le sais. Donc voilà.
Et d'ailleurs, et on vous le rappelle,
et merci.
Si vous voulez faire un don, vous envoyez don par SMS au 92-111 pour donner 5 euros. Rendez-vous sur les réseaux sociaux d'RMC également pour s'associer à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour soutenir les personnels soignants. Tu restes avec nous, Edouard Jay, mon doudou, parce que dans quelques instants, Pierre Rondeau sera avec nous. Il y a pas mal de clubs pro qui mettent leurs salariés au chômage partiel. Marseille s'y met également. On va vous donner quelques informations dans quelques instants. Et Pierre Rondeau, notre économiste, va nous en dire plus juste après ça.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie de Lionel Charbonnier, Willy Sagnol, Jérôme Roten, Édouard Jay également est avec nous. On est revenu sur la crise qui règne du côté de Saint-Etienne en ce moment. On va parler de l'Olympique Lyonnais. Tiens, également, j'ai oublié de vous le préciser dans le sommaire de cet after. Il y a un quiz à la fin de cet after. Vous appelez le 32-16 pour vous inscrire. Quiz avec une thématique bien particulière. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai peur que vous grugiez à la maison, là, les gars. Là. Vous êtes chez vous, là, confinés chez vous.
Non. Ouah, si on parle de chevaux ou quoi?
Ah, ça dépend. Il y a certains joueurs qui sont des bourrins, tu le sais, mon Lionel.
C'est pour ça, je
t'en as connu, tiens, toi, des joueurs bourrins? Comme, vas-y, on veut des places. Citez-moi un joueur bourrin, chacun, là.
Un joueur bourrin à Auxerre? T'arrives au West?
Ah, j'étais sûr que t'allais me le citer, effectivement.
Mais efficace.
Ouais. Willy? Ouais.
Des bourrins, ah, écoute, à mon arrivée au Bayern, il y en avait quelques-uns quand même. Il y avait deux, trois.
Vas-y, comme.
Des Thomas Linke, des Sami Kufur. C'était
des bourrins,
mais qu'est-ce qui faisait du bien? Une défense.
Ben voilà, c'est ça aussi, t'en as besoin.
Jérôme.
Ouais, il y en a quelques-uns, mais.
Vas-y.
Pierre Fanfan.
Ah, je sais que j'ai croisé à Carrefour d'ailleurs avant ces histoires là, au supermarché. Voilà, qu'on
Pierre Fanfan, parce qu'il avait fracassé le genou de Chaban Inanda.
C'est vrai. Messieurs, vous savez que beaucoup de clubs pro de Ligue 1 et Ligue 2 ont mis leurs salariés au chômage partiel. L'OM s'y met aussi. Alors, info qui nous vient de Mohamed Bouafsi. Franck McCourt a écrit à tous les salariés de l'OM, administratifs et sportifs, pour leur dire de garder le cap pendant cette crise sanitaire et de prendre leurs précautions. Tout le comité exécutif de l'OM s'est mis sur le régime financier du chômage partiel. Malgré le fait qu'ils continuent de travailler, ils ont accepté de baisser leur salaire. Alors, cela concerne aussi tous les dirigeants de l'Olympique de Marseille. On va accueillir Pierre Rondeau, notre économiste, qui va nous en dire un petit peu plus. Salut Pierre.
Salut à tous.
Pierre, qui est abonné à l'after, il était déjà avec nous hier. On parle aux ailes, hier, vous avez survolé, on va dire, cette question. Alors, explique-nous un peu mieux en quoi consiste ce chômage partiel. Qui paye combien? Comment ça se passe?
Alors, l'idée, avant la crise du coronavirus, l'idée, c'est qu'en cas de cessation d'activité, de réduction d'activité, l'entreprise pouvait demander le régime particulier du chômage technique et réduire de 30% le salaire brut de ses salariés, autrement dit de 16% le salaire net de ses salariés. L'État pouvait aider l'entreprise en question, mais seulement à hauteur du SMIC. La subvention publique n'était uniquement calculée que sur la base du SMIC. Depuis le coronavirus, l'aide publique est passée à 4,5 SMIC. Autrement dit, vous gagnez 3 000 euros par mois. L'État va intégralement soutenir l'entreprise pour payer à sa place le salaire. Pour le cas des joueurs, l'immense majorité des joueurs de foot gagnent bien plus que ces 4,5 SMIC. Donc, effectivement, Marseille, Lyon, Montpellier, ces clubs français vont passer en régime, enfin, sous le régime du chômage partiel, vont verser 84% des salaires nets à leurs joueurs et vont bénéficier en partie, mais une toute petite partie, des aides publiques puisque ça représente seulement 4,5 SMIC.
Ok, voilà, c'est clair, vous avez compris les mecs?
Ouais, j'ai compris. Mais
En gros, c'est plafonné à 4,5 fois le SMIC, la part de l'État, et le reste, c'est le club qui paye. Sachant que le total, en période chômage partiel, le salarié touche 84% de son salaire net.
Ok, donc en gros, pour faire simple, tous ces clubs-là reçoivent une prime de l'État.
Oui, pendant cette période-là. Enfin, c'est le club même.
Pardon, j'ai dit quoi? Ouais, le club reçoit tous les clubs qui se mettent en chômage partiel, qui mettent leurs salariés en chômage partiel reçoivent quelque chose de l'État. Ouais. Mais moi, Pierre, est-ce que tu peux m'expliquer, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, je suis un petit peu titillé. En même temps, je lis que l'OL qui a mis ses joueurs en chômage partiel communique sur la fondation OL qui elle va donner 300 000 euros. À une autre association, une autre fondation, à des hôpitaux. Mais j'ai l'impression que c'est un mouvement, tu vois, d'un côté je prends et je redonne de l'autre côté. Est-ce que je me trompe? Moi, je le sens comme ça et quelque part, ça me dérange, moi, personnellement.
Mais attention, je peux me tromper. Alors, c'est vrai qu'il y a ce don de 300 000 euros en faveur de la lutte contre le coronavirus, de la fondation OL et pas directement le OL Group, mais la fondation OL donne tous les ans aux bonnes œuvres. On a tendance à oublier que l'année dernière.
Mais ils ne communiquent pas autant. Parce qu'ils font des trucs fabuleux.
Le don était de 400 000 euros pour la lutte contre le cancer. Là, on a cette année 300 000 euros pour la lutte contre, enfin, pour la recherche contre le coronavirus. Mais effectivement, il faut vraiment dissocier l'entreprise OL, qui d'ailleurs est cotée en bourse et qui est vraiment une entreprise à part entière. Et à ce titre-là, elle a droit, comme toutes les autres, aux aides publiques en période de crise. Et la fondation OL, qui elle, donne, fait des dons aux bonnes œuvres, et notamment pour cette année, 300 000 euros en faveur de la lutte contre le coronavirus. Et
mais même qui si finance parle... la fondation OL ?
Ah, c'est directement l'OL. C'est l'OL Group qui donne de...
Ah, donc,
en gros,
ouais.
le budget de la fondation, il était de l'année dernière de 750 000 euros. Et il est issu, justement, des fonds du groupe OL.
D'accord.
Mais voilà, quand on parle des aides données par l'État, c'est vrai qu'effectivement, l'OL, l'OM et les clubs français vont en bénéficier.
Il y a Nîmes aussi,
mais
je crois.
Parce que ce sont des entreprises à part entière et à ce titre-là, elles ont le droit, comme toutes les autres, à toucher des aides publiques.
Ouais, et après, il faut aussi resituer une chose, je parle sous ton contrôle aussi, Pierre, c'est que les clubs de foot professionnels font partie des entreprises qui cotisent le plus à l'année aussi, qui payent le plus de charges.
Ils cotisent.
Ouais, il y a ça aussi.
ils sont plafonnés sur ouais. toutes les cotisations.
Juste, Edouard, alors, ouais, vas-y, alors explique-moi, ils font quoi la Fondation OL? Parce que c'est vrai que là, on en parle beaucoup, alors là, tu obliges.
Alors, justement, ils font énormément de choses. C'est quelque chose, une fondation qui a été créée le 25 août 2007, qui est actuellement présidée par Camille Abili et Thierry Frémaux. Thierry Frémaux, c'est le président de l'Institut Lumière et surtout le délégué général du Festival de Cannes pour l'aspect purement national. Ce sont les deux présidents de la fondation. Il y a aussi Raymond Domenech, il y a Jean-Michel Aulas, Claudio Cassapa et d'autres personnes qui sont dans le conseil d'administration. Alors en 13 ans, c'est plus de 70 associations qui ont été soutenues par l'OL et au total c'est 4 millions, un petit peu plus de 4 millions d'euros qui ont été financés. Alors on a déjà parlé sur RMC Sport notamment, vous savez, des robots que l'on met à l'entrée des joueurs quand ils arrivent au niveau des vestiaires. Ils sont
exactement, on a vu les joueurs du PSG là il n'y a pas longtemps.
Voilà, exactement,
match,
il y a eu
magnifique.
La Juve notamment sur le dernier match de l'OL, parce que la Juve a aussi une fondation. Donc en fait, c'est un robot qui met en lien donc l'activité qu'il y a devant les vestiaires avec des jeunes, notamment alors c'était il y a quelques mois, c'était avec le centre Léon Bérard qui lutte contre le cancer à Lyon, et désormais c'est l'hôpital Femme Mère Enfant de Bron. Et donc les enfants qui sont malheureusement sur leur lit d'hôpital, eh bien ils ont en direct ce qui se passe en vrai. Ils ont eu les coucous de l'année dernière de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de tous les joueurs de l'OL régulièrement. Alors ça, c'est la chose, on va dire, la plus visible, mais il y a énormément d'autres petites choses qui sont faites. Par exemple, à côté de moi, dans la tribune de presse, il y a des commentateurs des jeunes apprentis journalistes de l'ISCPA, c'est une école de communication sur Lyon, qui commentent le match pour des spectateurs malvoyants qui sont
dans le stade. Ça.
Voilà, bah, ça c'est des personnes qui sont juste à côté de nous. Il y a aussi des récupérations et redistributions immédiates de l'ensemble des denrées non périssables à la fin des matchs. Et par exemple, le dernier match Lyon-Reims qui a été annulé le matin même, hein, c'est ça, oui, c'est ça, le vendredi dernier, le matin, le match devait avoir lieu le soir. Vous imaginez que tous les traiteurs avaient préparé tout pour toutes les loges, et ben ça a été immédiatement donné à la banque alimentaire. Au total, depuis 2016, 25 tonnes de nourriture. Il y a aussi des événements par rapport à l'emploi. Il y a des moments de job dating. 286 entreprises, par exemple, qui travaillent là-dessus. Et il y a eu 2000 embauches directement depuis que le stade existe, le Groupama Stadium. Il y a eu aussi toute une série. Alors, c'est arrêté maintenant. À chaque but, il y avait 1000 euros pour la lutte contre le cancer. Et puis, l'une des dernières actions faites, c'est ma chance, moi aussi. C'est 12 enfants qui viennent au stade après, c'est des enfants de quartiers défavorisés à Décines, vous savez, le Groupama Stadium est donc dans une commune à côté de Lyon, à l'est de Lyon, à Décines, et c'est 12 enfants qui viennent faire de l'aide aux devoirs. Ils quittent leur quartier et après l'école, ils vont faire leurs devoirs où ils vont découvrir la musique, le théâtre, directement dans le Groupama Stadium. Alors, voilà les différentes actions, et notez aujourd'hui qu'il y a ces 300 000 euros de l'OL, mais que l'OL aujourd'hui a mis en ligne sur son site internet une opération de crowdfunding. Si vous voulez mettre de l'argent, apporter de l'argent pour l'OL, veut dire nous, on a initié, on a fait une partie du chemin, à vous désormais de le faire. Et je peux vous dire qu'il y a déjà des joueurs qui ont décidé de mettre de l'argent, alors, et bien évidemment également d'autres salariés de l'OL. Si vous voulez, c'est sur le site de l'OL.
Alors, il y a pas mal de clubs, hein, d'ailleurs, hein, en cette période trouble, et de joueurs aussi, qui font des dons à des hôpitaux, à des œuvres caritatives, des clubs qui mettent à disposition leurs installations également, ceux qui ont un peu moins de moyens dans d'autres pays aussi. Willy, toi qui as longtemps joué en Allemagne, c'est vrai que on a l'impression qu'en France, comme le disait Lionel, finalement, les clubs communiquent pas forcément beaucoup autour de ces actions caritatives. Toi, c'était une chose que tu faisais souvent quand tu étais là-bas ? Vous participiez beaucoup à ce genre d'initiative ?
Oui, oui, parce que le Bayern, forcément, a sa fondation aussi depuis très longtemps. Le rôle sociétal des clubs, je dirais, outre-Rhin, a été initié déjà un petit peu avant. En France, c'est assez récent, même si maintenant l'ensemble des clubs s'y sont mis. Après, c'est une question de culture. Aujourd'hui, on doit, malheureusement, et j'espère que justement ce coronavirus va faire un petit peu évoluer les mentalités. Pourquoi aujourd'hui les clubs communiquent aussi peu quand ils font des dons ? Pourquoi les joueurs communiquent aussi peu quand ils font des dons ? C'est parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui communique en disant j'ai donné ça pour telle chose, les premières choses qu'il entend c'est de toute façon t'as les moyens, tu peux le faire. Oui, mais c'est pas parce que t'as les moyens que t'es obligé de le faire. C'est une question de culture. Mais ça vient petit à petit, et je trouve ça très bien. Je vois en Allemagne,
ou alors t'as 50 millions voilà, d'associations qui viennent te demander aussi.
Voilà, non mais et après tu as en Allemagne, comme ça fait depuis plus longtemps, je dirais les sommes sont plus élevées. Là, on a vu par exemple là on a vu deux joueurs du Bayern donner 500 000 euros chacun. Ont commencé Kimmich et je me rappelle plus son nom, celui qui est à Schalke l'année dernière.
Ils ont communiqué là-dessus, non?
Goretzka, c'est ça, ouais. Ils ont juste communiqué aujourd'hui, mais de manière très, très. Non.
Les deux joueurs.
Ils ont filé 500 000 chacun. Mais ils ont communiqué de manière très sobre. Et il n'y a pas de. Voilà, c'est dans la culture depuis tellement longtemps, parce que le voilà, c'est moi quand j'y étais déjà, c'était déjà le cas à l'époque. En France, c'est venu un peu plus tardivement, mais aujourd'hui, tous les clubs en France le font. Tous les clubs mènent plein d'opérations, que ça soit des opérations locales ou des opérations au niveau national. Et s'ils ne communiquent pas dessus, c'est pas parce qu'ils ne font rien, c'est juste parce que ils souhaitent pas toujours communiquer.
Ouais,
ils préfèrent faire plutôt que parler.
Exactement. Voilà.
Et après, il faut aussi pense sur le bec, je parle pour les journalistes. On a souvent des communiqués de presse sur tout ce que font les différentes associations.
Ouais, et on ne relaie pas forcément.
Et quand on veut relayer, éventuellement, nos supérieurs nous disent bon, on l'a fait la semaine dernière, on ne va pas le refaire, ou on l'a fait il y a un an, on ne va pas le refaire. Et il n'y a pas forcément cette appétence pour faire ce genre de sujet. Peut-être que la période actuelle va changer, parce que toutes ces choses-là que je vous ai décrites, il y en a encore beaucoup d'autres.
Bien sûr.
Je trouve que ça vaut vraiment. Et franchement, Nico, tu peux témoigner sur les robots.
C'est vrai.
J'ai beaucoup bataillé il y a un an qu'on fasse un reportage, et ça c'était quelque chose de symbolique.
C'est génial.
Il fallait que Messi vienne au Groupama Stadium pour que je puisse en parler. Pour d'autres choses, c'est un petit peu plus difficile. Ça passe sous forme d'un communiqué. Derrière, on n'a pas forcément les moyens ou le temps de diffuser.
Jérôme, on t'a pas entendu sur le sujet.
Non, je pense que dans beaucoup de grands clubs aujourd'hui, et même les plus petits clubs, de toute façon, il y a des choses qui sont faites pour aider diverses personnes, divers organismes. Donc moi, j'en ai vécu beaucoup, surtout à Paris pendant plus de 6 ans avec la Fondation PSG. Donc forcément, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais c'est bien. De toute façon, le football a montré. Il n'y a pas que le foot, hein, mais vu que c'est notre sport, le football a montré quand même que dans cette période très difficile, c'était un sport exemplaire de ce côté-là.
Un dernier truc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on met beaucoup en avant le rôle social essentiel du football à travers ces fondations. Les footballeurs et les clubs donnent à des bonnes œuvres et en plus payent beaucoup d'impôts. Tu l'as déjà dit, Nicolas, mais je peux donner des chiffres. C'est 225 millions d'euros d'impôts sur le revenu versés par les joueurs de Ligue 1. C'est 340 millions d'euros de cotisations sociales payées par an. Donc voilà, ils donnent fiscalement et ils donnent en plus à des œuvres caritatives, à des associations et à des bonnes œuvres. Donc on ne pourrait pas derrière les critiquer, leur dire que vous avez les moyens de donner, vous n'en faites pas assez.
Ah, ça arrive, hein, Pierre,
pourtant, on entend souvent. Hein.
C'est malheureux, mais voilà, c'est vrai qu'ils payent beaucoup d'impôts, ils participent grandement au financement de l'État-providence en France, et en plus, ils donnent à des fondations.
Et toi, juste Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il y a pas mal de réactions sur le hashtag RMC Live et sur l'appli Direct Studio également. Il y en a pas mal qui sont finalement un peu émus de voir que bah, les clubs professionnels qui ont des gros budgets bah, s'appuient sur le chômage partiel et sur cette aide de l'État finalement pour une partie du salaire de leurs salariés. Hein, c'est pas forcément que les joueurs, c'est aussi les salariés des clubs. Hein.
Mais exactement, tu l'as dit, c'est pas que les joueurs, c'est pas que les millionnaires en short, c'est aussi les cadres administratifs,
et les salariés. Et tous les joueurs ne sont pas des millionnaires, hein, au passage. Hein, donc.
Et en plus, ils ne sont pas tous des millionnaires, c'est vrai, il y a beaucoup de joueurs qui ne visent pas non plus grand train. Je précise quand même que la Ligue 1 française, c'est 34 000 emplois au total générés de façon directe et indirecte. Donc l'État qui vient soutenir les entreprises françaises, à ce titre-là, l'État soutient toutes les entreprises françaises, y compris les clubs de foot professionnels, qui génèrent des rentrées financières, qui génèrent de l'argent, qui génèrent en plus des rentrées fiscales. Je rappelle quand même que le football français, c'est 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une économie à part entière qui, comme n'importe quelle autre, a le droit de toucher une subvention publique, une aide publique en temps de crise.
Et puis, à partir du moment où les montants sont plafonnés, ça coûte pas plus cher à l'État d'abonder dans le système du chômage partiel pour rémunérer un joueur, par exemple, de l'Olympique Lyonnais ou de Marseille. Ça ne coûte pas plus cher à la collectivité que de rémunérer un cadre sup d'une entreprise qui est mis au chômage partiel aussi.
Bah non, parce que c'est plafonné, donc.
Donc il faut pas partir dans aujourd'hui les clubs de foot, c'est comme chaque entreprise, ils ont des budgets et pour beaucoup ils ont des budgets serrés et que dans des périodes comme aujourd'hui, ils se retrouvent en difficulté.
Merci Pierre d'avoir été avec nous, Pierre Rondeau.
Salut
Pierre,
à
très vite. Merci, prends soin de toi. Pierre. Salut Pierre.
Ciao Pierre.
Salut, bonne soirée. Salut.
Tiens Doudou, avant de te laisser, juste une petite info également qui a été glissée par Le Progrès aujourd'hui, la reprise de l'entraînement à l'OL est prévue le 24 mars, c'est ça, dans 4 jours. Ça te fait marrer?
Oui, comment ils vont faire?
Alors, on rappelle qu'il y a des joueurs à l'étranger encore, hein, mais je sais pas pourquoi.
Non,
mais...
c'était prévu.
Personne reprendra.
Non, c'était prévu mardi dernier, là. Mardi dernier, oui, donc c'était le 17. Le jour du match théorique à la Juve, et ça a été reporté sine die, et les joueurs sont au chômage partiel.
Voilà. Et puis Jean-Michel Aulas qui a d'ailleurs confié aujourd'hui chez nos confrères d'RTL qu'il y avait encore des joueurs qui étaient à l'étranger, donc ça va être un peu compliqué. Doudou, merci d'avoir été avec nous.
Eh bien, de rien, c'est un plaisir.
À très vite, ça fait du bien, merci. Tiens, et puis je vous rappelle, hein, face à l'épidémie du Covid-19, RMC s'associe à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour soutenir les personnels soignants. Nous lançons un appel aux dons ensemble, tous avec les acteurs du sport. Nous soutenons la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour donner et aider les personnels soignants. Rendez-vous sur rmc.fr où vous envoyez don, D-O-N, par SMS au 92-111 pour donner 5 euros. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux de RMC et sur le hashtag Solidarité Hôpitaux, Hôpitaux au pluriel. On compte sur vous. Nous revient dans quelques instants avec les infos du jour. On aura Fred Hermel avec nous dans cet after aussi dans quelques instants. Et inscrivez-vous d'ores et déjà pour un quiz avec un accent du Brasil. A tout de suite.
RMC. L'after foot. Nicolas Villas.
Toujours aussi bien accompagné avec Lionel Charbonnier, avec Jérôme Roten, avec Willy Sagnol, qui sont confortablement installés chez eux en cette période de confinement. L'after qui est là avec vous chaque soir de 22h à minuit. On a parlé de Saint-Etienne, on a évoqué l'Olympique Lyonnais également et notamment la Fondation OL. Petit sujet qui change un peu d'ailleurs les gars, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal aussi de mettre en avant ce que font les fondations des clubs.
Ouais. Surtout actuellement.
Tiens, quelques infos du jour. À Angers, Olivier Piqueux, manager général du SCO, alors en poste depuis 2006, a été convoqué aujourd'hui au siège du club pour un entretien préalable à un licenciement, mis à pied à titre conservatoire depuis le 10 mars. Il a été reçu par le président. Alors Piqueux, qui a été notifié pour des, je cite, fautes graves caractérisées répétées de nature à porter préjudice aux intérêts du club, il attend maintenant une lettre recommandée lui signifiant son licenciement. Voilà Olivier Piqueux qui va donc quitter le SCO d'Angers de façon un peu... pas difficile, on va dire. Je sais pas ce que ça vous inspire, ça, les gars.
S'il a fait une faute. Non, mais c'est vrai que vu de l'extérieur comme ça, ça paraît complètement aberrant. Par rapport au travail qu'il a pu mettre en place depuis pas mal d'années.
Et tous ensemble, Jérôme. Hein, ils travaillaient tous ensemble.
Maintenant, Lionel.
Il a peut-être fait des conneries.
Apparemment, c'est le cas. C'est le cas. Après, je sais pas. On sera un peu plus éclairci dans quelques temps certainement, mais là, c'est difficile de donner un avis définitif dans tous les cas.
Ok.
Il va rebondir.
Il va rebondir, Olivier Piqueux. Il a fait du très
bon.
Tout
dépend de la connerie qu'il a fait. Ouais, tout dépend de la boulette.
S'il en a fait une, je sais pas, on sait pas. Faut voir.
Bon, là-dessus, j'ai rien à vous dire.
Apparemment, il en a fait plusieurs.
Ah ouais, t'as des infos alors.
Bah,
vas-y.
Bah non, mais c'est, si c'est, bah, si c'est répété.
Répété, tu dis, c'est marqué.
Non, c'est vrai. Faute grave et caractérisée répétée. En plus, c'est au pluriel. Donc, ouais. Voilà. Alors, c'est pas un communiqué, hein, c'est une info de nos confrères de West France qui explique ça. Tiens, juste une petite info, parce que tout à l'heure, il rigolait Edouard G, là, quand je disais entraînement le 24 mars à l'OL. Alors, précision, hein, c'est reprise individuelle, chacun sait chez soi. C'est quand même pas pareil. Hein. Voilà pour
les entraînements. Oui.
Tu vois, le mec, il donne des infos, mais elles sont complètement cons, ces infos. Donc, effectivement. L'UEFA qui a annoncé aujourd'hui que l'Euro 2020, qui se déroulera en 2021, portera le nom d'Euro 2020. Alors, pour célébrer les 60 ans du championnat, du championnat d'Europe des Nations, et qu'il devrait avoir la même formule que celle prévue pour 2020. Alors, c'est-à-dire qu'il se déroulera dans plusieurs pays. Sauf que, tweet de l'UEFA. Ah, quelques heures plus tard, je cite, toutes nos excuses pour cette erreur. Pour être clair, aucune décision n'a été prise pour le nom de l'Euro qui sera organisé en 2021. Le tweet précédent a été envoyé par erreur. Voilà, donc
on connaît... pour le nom.
Voilà, il y a que le blaze. Alors les dates, elles, ont été annoncées et pas encore démenties. Ce sera du 11 juin au 11 juillet 2011. Donc voilà, ça fait.
Si 2021, ça pouvait être que en Angleterre, ça serait top.
Ah ouais, toi tu préférerais dans un seul pays aussi. C'est vrai que c'est bizarre, non, ce truc-là quand
bien
même.
Bien sûr.
C'est un peu chelou comme formule, hein, tout ça. Tiens, info de notre Jeannot Séguier. Aujourd'hui, il y a une réunion téléphonique entre Noël Le Graët, président de la Fédé, Nathalie Jeannot.
Il bosse toujours, Jeannot, là.
Mais Jeannot, mais tu crois que le confinement, il connaît pas. Il bosse tout le temps, ça carbure là-dedans.
Je pense qu'il doit commenter les matchs de chez lui.
Il doit
commenter
tout ce qui se passe dans la baraque. Salon. Attends, récupère le saladier.
Et sa femme fait à manger, elle l'entend en train de commenter, et il se retourne et il dit alors, j'étais bien, là, chérie. Est-ce que je me suis trompé de joueur ou pas?
Non, Jo.
C'était un couteau, une fourchette. Bref. Alors, il y avait donc une réunion téléphonique aujourd'hui entre Noël Le Graët, Nathalie Bois de la Tour, Didier Quillot et les présidents des clubs pro. Noël Le Graët qui a affiché sa volonté de terminer cette saison et d'aller au-delà du 30 juin si besoin. Alors le 30 juin, pourquoi le 30 juin? Parce que c'est la date qui avait été préconisée, enfin évolue à la base, idéalement par les FED, les ligues et l'UEFA également. Le boss de la 3F qui a aussi rappelé qu'il ne fallait pas oublier de caler les deux matchs des Bleus face à l'Ukraine et la Finlande. La possibilité de terminer le 30 juin comme souhaité initialement semble donc compliquée. L'UEFA étudie donc deux alternatives. Terminer le 31 juillet ou le 31 août. Alors, ce qui voudrait dire qu'il faudrait pousser les tours préliminaires de Coupe d'Europe à l'automne. Reste également le cas des contrats des joueurs qui se terminent le 30 juin. Il y a des discussions en cours avec l'UNFP. Bref, en gros, il y a deux possibilités qui semblent viables. C'est de terminer soit la saison le 31 juillet, soit le 31 août.
Ouais. 31 août.
Ouais.
Ouais. Ça fait tard, hein, 31 août.
Bah surtout que normalement, t'as les tours préliminaires, ils débutent en juillet déjà, en Coupe d'Europe.
31 juillet, ça me paraît plus probable. Déjà, ouais. Enfin, je sais pas. Ouais. Bah, alors qu'il y a quelques temps, on parlait. Bon, après, on tire des plans sur la comète parce qu'on ne sait pas ce qui, comment ça va se passer la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde partait déjà sur mi-juillet. Là, ça commence à aller 31 juillet, 31 août. Ouais, 31 août, ça me paraît compliqué derrière. Surtout que t'as l'euro. Comment tu peux rattraper le retard comme ça? J'ai du mal à comprendre là.
Il y en a un qui visiblement est d'accord avec toi, c'est Jean-Michel Aulas, qui s'est confié ce soir sur RTL. Si on veut sauver la Ligue 1, il faut absolument terminer la saison le 30 juin. Il faut faire des choix et être courageux. Laisser tomber la C1, les coupes et les matchs internationaux, a-t-il déclaré. Voilà ce qu'a dit Jean-Michel Aulas.
Laisse tomber la C1, il a dit.
Ouais, on laisse tomber la C1, les coupes nationales, les finales de coupe, quoi, les matchs internationaux.
Il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon.
Alors, il a aussi précisé, j'ai jamais dit que je voulais faire une saison blanche. Hein, il a dit aussi. Hein,
c'est ça. Il a jamais dit ça et il s'est fait démonter quand il a dit ça il y a quelques jours. Et là, maintenant, il est en train de nous dire, les coupes, on arrête, la C1, on arrête, Lyon est qualifié et en finale de la Coupe de la Ligue et encore susceptible d'être qualifié en quart de finale.
Sur cette histoire de la saison blanche, je vais te donner sa citation. Je n'ai pas dit qu'il fallait terminer sur une saison blanche. C'était dans l'hypothèse où il y aurait un arrêt. Ce n'est pas ce que je préconise. Je veux que le championnat se finisse, même à huis clos, a-t-il déclaré, a-t-il précisé aujourd'hui.
Non, mais c'est bizarre. Même si le championnat n'arrive pas à se finir, pourquoi il n'a pas dit aussi il y a une autre alternative, c'est d'arrêter le championnat aujourd'hui, quoi. Il y a 28 journées qui ont été faites.
Dans l'état actuel.
Tant pis pour ceux qui sont à la ramasse, comme l'Olympique Lyonnais.
Tiens, une info également. Alors là, on va partir les mecs du côté de la Biélorussie. Il y a un peu plus de 50 cas de Covid-19 là-bas. Le championnat a repris hier. Alors comme si de rien n'était, hein, avec public dans les stades, il n'y a pas de mesures de précaution. Alors le président de la Fédé biélorusse qui a expliqué hier, le pays n'est pas en état d'urgence, la situation n'est pas critique. Nous ne jouons pas à huis clos parce que sinon les gens se massent devant le stade. Alors ça, je vous laisse réfléchir là-dessus. J'ai pas trop compris moi. La décision de jouer régulièrement et avec le public a été prise après la réunion de mardi et la fameuse visioconférence qu'il y a eu entre l'UEFA, les dirigeants de l'UEFA et l'ensemble des associations européennes. Alors Loukachenko, président de la Biélorussie depuis 1994, a recommandé à ses concitoyens de se laver fréquemment les mains, de rester de préférence à la maison, mais il a parlé d'une psychose concernant le Covid-19 en donnant ce conseil, je cite, hein, « Je ne bois pas, mais j'ai appris récemment qu'il ne fallait pas seulement se laver les mains avec de la vodka, car la vodka c'est aussi un poisson contre le virus. Il faut en boire 40-50 millilitres par jour, mais pas au travail », a-t-il dit. Je vous jure que c'est vrai. Il recommande aussi d'aller au sauna, parce que selon les Chinois, le virus meurt au-delà de 60 degrés. Alors sachez qu'il y a plusieurs francophones qui évolue en Biélorussie. On a pris contact avec eux, avec la rédaction d'RMC. Ils ont interdiction de parler de la part de leur club. En off, ils nous ont expliqué qu'ils sont très inquiets face à la situation, face au manque d'infrastructures des hôpitaux sur place. Certains médecins avec qui ils parlent leur confient que les autorités minimisent le nombre de personnes qui sont touchées dans le pays. L'ambassade française de Biélorussie a pris contact avec eux pour leur indiquer que si la situation devenait trop dangereuse pour ses ressortissants, ils seraient rapatriés par avion militaire. C'est complètement dingue ce qui se passe en Biélorussie quand même.
Complètement dingue. Bah, ils vivent dans une bulle en fait eux.
Le coup de la vodka c'est quand même énorme, hein. Discours présidentiel, non, les gars, lavez-vous les mains avec de la vodka et buvez-en un
c'est
peu
incroyable.
Mais pas trop.
On en a aussi en sauna France, parce qu'il meurt le virus avec la chaleur. Non mais n'importe quoi. Ouais.
On en a aussi en France, hein. T'en as une sur Twitter, elle te raconte, une élue, hein. Elle te raconte que c'était pas normal de fermer les
celle qui était candidate à la mairie de Saint-Germain-en-Laye.
Oh, exactement.
Ouais, c'est notre copine à tous, celle-là.
Ouais. Ah ouais, celle-là, mais je deviens fou quand je lis ces tweets, c'est hallucinant. Ouais,
c'est incroyable.
Il n'y a pas besoin d'aller en Biélorussie, hein. Faut les mettre les deux, là, qui se mettent un truc, et qui vivent ensemble, hein, parce que ils sont à l'ouest, hein.
Après, je rassure, hein, Jeannot fait beaucoup de sauna en ce moment, c'est pas à cause du virus, hein.
C'est pour autre chose. C'est pourquoi ?
Ah, c'est pour fondre un petit peu.
Oh non, on n'avait dit pas le physique, Jérôme.
Bah non, mais pour fondre. Bah attends, t'imagines. Enfermé comme ça quelques semaines, je sais pas comment on va le retrouver, hein.
Bien, il va être bien, notre Jeannot.
Tiens, une petite info pour toi, mon Willy. Alors, le RB Leipzig a repris l'entraînement après une semaine de confinement. Et à Leipzig, Dani Olmo est mécontent de son temps de jeu. Il a été recruté l'hiver dernier par le RB Leipzig pour 20 millions d'euros. Et l'Espagnol s'est confié aujourd'hui au quotidien espagnol AS. Je me sens heureux dans ce club, mais sincèrement, je pensais jouer plus. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas du tout joué lors des trois derniers matchs, mais je continue de travailler. Tu comprends le petit coup de gueule là de notre Dani Olmo, le jeune Espagnol, ou pas, Willy?
Je comprends oui et non. Je ne sais pas pourquoi il joue pas plus. Peut-être parce qu'il travaille peut-être pas assez. Peut-être parce que il y a d'autres joueurs, que ça soit Nkunku, que ça soit Werner, que ça soit Sabitzer, ils sont plutôt en grande forme. Ils passent dans un monde maintenant où il y a de la concurrence. Faut qu'ils s'y habituent. Mais ça reste un joueur avec un bel avenir, mais faut qu'il travaille. Et puis en Allemagne, si vous êtes là au bout de 3 mois, vous faites déjà des interviews comme ça.
Ouais, c'est la question que j'allais te poser, ça va être pris comment?
Ouais, pas très bien.
Ouais. Il vous inspire quoi, le Dani Olmo, Jérôme et Lionel?
Bon, personnellement.
Celui qui était au Dynamo Zagreb, c'est un bon petit joueur, hein. Il a été appelé en équipe en équipe A d'Espagne alors qu'il était en Croatie. C'est un bon petit joueur.
Oh, je vais te répondre honnêtement, j'en connais pas assez sur lui pour. Pour te donner une réponse.
Tu l'as commenté toi,
les après les Espagnols, Nico, on le sait, dès qu'il y a un joueur qui a la possibilité de jouer pour l'équipe nationale, même s'il a 8 ans et demi, il le sélectionne une fois en équipe nationale. Hein. Au moins après, ils l'ont dans leur escarcelle.
Bah après, ils ont un tel visier aussi. Tu vois, ça arrive pas souvent qu'un mec du Dynamo Zagreb soit appelé en équipe d'Espagne quand même. Non mais c'est vrai.
Ouais, mais bon, c'est un bon jeune joueur, mais qui doit maintenant, il peut passer de Zagreb à Leipzig, c'est plus qu'un bon en avant, il faut un coup de trampoline pour y aller, donc qu'il prenne son temps.
Il a joué 5 matchs, hein, 5 bouts de match depuis qu'il est arrivé du côté de Leipzig.
C'est pour ça, il faut prendre son mal en patience. Dire, en plus, on connaît ce qu'ils veulent mettre en place à Leipzig. Il a la chance de tomber quand même sur un entraîneur qui habite habitué à lancer les jeunes joueurs, qui prend son temps. Je pense que le jour où il sentira qu'il a vraiment passé un cap, il jouera. Nkunku, c'est ce qu'il a fait. Au début de saison, il jouait pas. C'était Forsberg qui jouait. Et puis d'un seul coup, il est passé devant Forsberg, qui était le maître à jouer de cette équipe. Donc, pourquoi pas le même issue pour ce jeune joueur.
Tiens, il y a une réaction d'Ali sur le hashtag RMC Live. Olmo aurait dû attendre le Barça. Je vous rappelle que face à l'épidémie du Covid-19, RMC s'associe à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Si vous voulez faire un don pour soutenir le personnel soignant, vous envoyez don DON par SMS au 92 111 pour donner 5 euros. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de RMC sur le hashtag Solidarité Hôpitaux. Et très bonne remarque de Fatchbou sur l'application Direct Studio. Depuis tout à l'heure, je dis Solidarité Hôpitaux, Hôpitaux au pluriel. Vous êtes con quoi, Hôpitaux, c'est du pluriel. Je suis vraiment débile, moi, des fois. Dans quelques instants, on donne des news de Neymar et on va parler de Pelé, qui lui aussi parle de Neymar. Tiens, et puis, on vous rappelle, il y aura un quiz ce soir dans l'after. On terminera par ça. Inscrivez-vous d'ores et déjà au 32-16. À tout de suite.
RMC, l'after foot.